Stop, c'est parti. Comment ça marche le journalisme?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
You are fake news.
La bonne réponse.
Il est 9h40, vous êtes sur France Inter. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans l'Instant M.
Quand on regarde une série, on sait que ça va se terminer.
Vous voulez me spoiler?
Le spoil.
On ne se ferme pas les yeux aussi facilement qu'on se bouche les oreilles.
Un jour, Jean Humbert, déjà diplômé de l'Institut Bocuse et jeune restaurateur, a gagné Top Chef, le télécrochet de M6. Plébiscité par le public, il a poursuivi les prouesses culinaro-cathodiques avec Norbert Tarrère. La télé, il n'y mit plus tellement les pieds, il y revient pourtant dans un exercice de la maturité. À la rencontre des producteurs qui disent les produits de saison et le savoir-faire de nos régions. Comme si la star, ce n'était plus lui, le chef, mais ce qu'il manie. Comme si la cuisine n'était plus seulement affaire de performance et de technique, mais de goût. Et vous savez quoi? Le goût passe très bien à l'image. D'ailleurs, les réseaux sociaux en raffolent et rivalisent d'ingéniosité pour mettre en scène les saveurs et l'authenticité.
L'Instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Bonjour Jean Humbert.
Bonjour.
On se couche tard dans la restauration, vous avez des petits yeux.
On se couche tard, mais on se lève tôt aussi.
4 saisons, déjà l'été, diffusées sur France 5. Aujourd'hui, c'est l'automne, ça va être diffusé dimanche soir à 20h50 dans la case du doc du dimanche soir de France 5. Mamie, c'est votre nouveau resto, c'est tout près de la maison de la radio. On va en parler de Mamie et de l'automne. Ça tombe bien, c'est une saison qu'aiment beaucoup les cuisiniers. Vous allez nous expliquer pourquoi. Et il y a Bruno Donnet aussi, ça va Bruno?
Bonjour à vous, dévoreuse de médias.
Oui. Et ça passe très bien à l'image, c'est marrant. Hein. Mais en attendant, la Madeleine du vendredi. Vous gagnez un DVD, une mise en scène de la Comédie française, si vous retrouvez le nom de cette émission produite par Jean-Luc Petit-Renaud sur France Inter. Parce que oui, il a été sur France Inter dans les années 90. Souvenir.
Vous êtes un peu le diable de Quiberon parce que vous êtes à 3 pas de la thalasso, des centres de thalassothérapie de Quiberon, et vous imaginez le gros monsieur ou la grosse dame qui sont venus là passer 8 jours pour tenter de retrouver le physique de Richard Gere et qui pousse cette porte, et à ce moment-là, il est là au milieu du magasin, un petit bain de chocolat chaud devant lui.
Il interviewait un chocolatier. Comment s'appelait l'émission de Jean-Luc Petit-Renaud sur France Inter? L'Instant M, tout attaché, l'Instant M at radiofrance.com. Bonne chance à vous tous. Vous l'aimiez beaucoup, Jean-Luc Petit-Renaud, n'est-ce pas?
Ah, c'est lui qui m'avait fait ma première radio à l'époque, et j'avais 22 ans alors.
Comment ça qui vous avait fait votre première radio? Il vous avait invité?
Oui, il m'avait invité, j'avais 22 ans, je venais d'ouvrir la Cajou, là où il y a Mamie juste à côté. Mm-hmm. Et il avait chanté une demi-marseillaise en direct en disant que c'était incroyable qu'en France, il y avait quelqu'un qui avait, il avait dit ce mot, les couilles d'ouvrir un restaurant à 22 ans en France. Voilà.
Ça commence bien. Bruno Donnet, cette semaine, vous vous êtes intéressé au prolongement médiatique du procès Balgany et plus particulièrement à une intervention, celle de son avocat, Éric Dupond-Moretti, samedi dernier sur France 5.
Oui, ça s'est passé juste après le verdict et la condamnation de Patrick Balgany à 4 ans de prison ferme avec mandat de dépôt. Éric Dupond-Moretti était l'invité de C'est à vous et il s'en est pris très violemment au travail de la presse.
Mais vous savez, dans la gravité de la peine, il y a aussi une forme d'acharnement journalistique.
Voilà, acharnement journalistique. Il a donc commencé par attribuer la condamnation de son client aux journalistes, puis il a qualifié les journalistes avec un mot.
Je le dis, c'était la meute.
La meute.
Ah, c'était la meute.
La meute, un terme bien évidemment pas choisi au hasard, puisque pour former une meute, il faut des chiens, et que lorsqu'on associe chien à journaliste, eh bien on renvoie forcément aux propos de François Mitterrand, après le suicide de Pierre Bérégovoy.
Les explications du monde ne justifieront pas qu'on ait pu livrer aux chiens l'honneur d'un homme, et finalement sa vie.
Voilà, une mise en accusation particulièrement grave des journalistes donc, qui, en matière de technique d'avocat, porte un nom, celui d'un procédé très pratique qu'on appelle « renverser la charge de la preuve », c'est-à-dire tenir pour vrai ce qui n'est pas prouvé être faux. Une technique habile, certes, mais qui présente tout de même une grande faiblesse, puisque comme le résume parfaitement la locution latine « quod gratis asseritur gratis negatur », ce qui est affirmé sans preuve, peut être nié sans preuve. Alors loin de moi, Sonia, l'idée de venir ici ce matin vous faire comme Éric Dupond-Moretti en me contentant de nier ces accusations à l'égard de la presse sans apporter la moindre preuve. Car les preuves que Dupond-Moretti dit des conneries plus grosses que lui, eh bien elles sont légion et elles posent questions. Les questions, on pourrait les résumer ainsi. Jusqu'où et jusqu'à quand un avocat peut-il venir plaider à la télé plutôt que dans un prétoire? Samedi dernier, le verdict avait été rendu depuis 24 heures et on peut donc se demander si, au seul motif qu'il avait échoué à la barre, la place de l'avocat de Patrick Balkany était vraiment de continuer à plaider sur un plateau de télé. Du reste, Dupond-Moretti est coutumier du fait puisque le 13 mai dernier, la veille de l'ouverture du procès Balkany, il était déjà venu sur France 5 exposer devant les caméras, avant de le faire devant les magistrats, son système de défense.
Je suis venu exceptionnellement pendant une affaire en cours pour tenter d'expliquer deux ou trois choses.
Voilà, enfin, les preuves, eh bien pour les trouver, il suffisait de réfléchir d'abord à l'indépendance des juges dont on peine à croire qu'ils soient à ce point influençables par des journalistes, mais surtout de jeter un œil dimanche soir au magazine Enquête Exclusive qu'M6 consacrait à Patrick Balkany. On pouvait y apercevoir une séquence hallucinante dans laquelle le maire de Levallois expliquait que, quoi qu'il arrive, rien ne pourrait l'empêcher d'être candidat en 2020.
Les réquisitions, elles sont assez lourdes.
Oui,
elles
mais...
pourraient vous empêcher de vous représenter.
Pas du tout.
10 ans d'inéligibilité.
Mais ça, c'est après la cassation, c'est dans quelques années.
Eh oui, sous l'œil de la caméra d'M6, Balkany toisait allègrement la justice avec une morgue et un cynisme abyssal, nous expliquant très tranquillement que le temps judiciaire travaillerait finalement pour lui.
Quelle que soit la décision du tribunal, eh ben après l'appel, vous êtes comme neuf.
Preuve, s'il en fallait une, que le meilleur ennemi du Balkany fraudeur, c'est le Balkany hableur. C'est lui qui provoque les médias, enfin c'est lui qui provoque l'ire des juges. Et ce ne sont pas les médias, pas les journalistes, et la démonstration que vouloir défendre l'indéfendable, c'est plus facile à faire sur un plateau que devant les tribunaux.
Sans blague. À réécouter Bruno Donnet sur franceinter.fr. Est-ce qu'on a un gagnant pour le jeu? Non, personne n'a trouvé? Oh bah alors, je vous rappelle la question. Comment s'appelait l'émission de Jean-Luc Petit-Renaud sur France Inter à la fin des années 90? Le titre est absolument génial.
L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Jean Humbert, chef, ami des stars, petit-fils de sa mamie chérie, fait moins de télé qu'auparavant, un documentaire par saison seulement, au rythme de la nature. Et nature, c'est bien ce qui le qualifie, lui, devant la caméra.
D'un seul coup, là, vous avez explosé le game de l'agrume. Bim, tu croques et boum, ça explose le jus, quoi.
Le goût disparaît. C'est incroyable. Bref, là, c'était une aparté. Hein.
Tu m'as fait une intubation, là.
C'est quoi ça, une intubation?
Je sais, non mais...
Totalement nature, comme si la caméra n'était pas là.
Mais moi, je regarde jamais la caméra. Même quand j'ai fait Top Chef, j'ai jamais pensé qu'on était filmé. Je disais beaucoup de choses trash d'ailleurs.
Ouais.
Mais là, je sais pas, pour moi, c'était aller à la rencontre de quelqu'un et la caméra... Je sais pas, c'est une petite souris que je regarde pas, j'ai envie de vivre le moment avec les gens. C'est pour ça que d'ailleurs, même pour dire bonjour aux gens, n'allez jamais le faire avant comme on fait à la télé.
Oui.
En disant bonjour, en racontant. Moi, je voulais les rencontrer pour la première fois et que tout se passe pour la première fois. Donc oui, c'est nature, mais c'est un docu sur la nature, donc on est dedans, quoi.
C'est ça. Donc pour France 5, vous sillonnez l'Hexagone à la rencontre des producteurs, pas seulement les fruits et légumes de saison de cet automne. Vous parlez aussi de lait, vous le faisiez dans le précédent. Vous parlez aussi de fruits de mer. Et l'automne est une belle saison pour qui aime cuisiner. D'ailleurs, il y a un leitmotiv dans chaque région où vous passez, c'est « ça me donne envie de faire plein de recettes, ça me donne envie de faire plein de recettes ».
Ah, je le dis à chaque fois.
À chaque fois.
Bon, ouais. Bah, c'est vrai alors.
Non, mais c'est joli.
Bah, c'est vrai que ça me donne envie de faire plein de recettes. Quand on va rencontrer quelqu'un, là, vous parlez de fruits de mer, donc là, pour l'automne, je suis allé rencontrer la dernière femme qui plonge elle-même, je sais pas, 10 à 20 fois par semaine, récupérer des coquilles Saint-Jacques.
Elle est pas toute jeune, d'ailleurs, hein, c'est génial.
Ouais, mais c'est incroyable. Le matin, quand j'ai pris un café avec elle, qu'on commençait à faire la rencontre, je me suis dit, là, on va aller dans la mer, là, il faisait pas beau, on a failli annuler, c'était chaud. Et elle se jetait à l'eau par 15 mètres de fond, 10 fois de suite, pour aller récupérer des coquilles Saint-Jacques à la main, ouais. Parce que c'est la meilleure façon
de les cueille, elle en parle comme des fleurs.
Bah, c'est exactement, comme des fleurs. Et oui, bah, quand on remonte ça, moi, je l'ai mangé à cru, c'était incroyable, c'est un peu trash peut-être, mais ça bougeait dans ma bouche quand je les mangeais. Et ça me donnait envie de faire plein de recettes. Et de les mélanger, parce que les saisons, ça a bien ensemble. Les agrumes, par exemple, on a envie de les manger avec les Saint-Jacques.
Alors, vous faites tout le temps le faux naïf. Hein, les endives, ça pousse dans le noir, c'est bien ça. C'est quoi la différence entre une endive et un chicon, quand même, pour qui est sorti de l'Institut Bocuse?
Merci pour mes capacités. Faux naïf, mais pas tellement, parce que c'est pas quelque chose qu'on nous apprend à l'école, par exemple. Il n'y a aucun enfant en France qui sait comment pousse un chou-fleur, ou que la pomme de terre c'est une fleur, et que quand elle a fleuri, il faut récupérer dans la terre. Personne sait ça. Les enfants, ils achètent, ils sont sur leur smartphone, ils commandent, les parents commandent, ça arrive, une pizza, c'est devenu mécanique, tout ça. Donc c'est pour ça que je voulais faire ce documentaire. Après, les endives, la façon dont il le fait, l'agriculteur, c'est passionnant.
Il les recouvre de terre.
Ah oui, il est avec son fils de 10 ans, il les recouvre de terre. Pour moi, c'est magique. J'ai l'impression que c'est du patrimoine aussi bien qu'un monument. Là, c'est je crois, le week-end du patrimoine. Ben, pour moi, c'est le patrimoine, c'est tout, les endives aussi.
Je crois que c'était la semaine dernière.
Bon, ça va.
Non, c'est là.
Il y a quelque chose. C'est vrai. Il y a quelque chose qui revient souvent. Une agriculture raisonnée ou une agriculture bio, des techniques à l'ancienne. On parle justement des endives. Loin des productions industrialisées, c'est beaucoup de travail.
Alors tu vois, quand il y a des gens qui me disent la farine de châtaigne, c'est vachement cher, bah ouais, c'est cher, mais ouais, ça se ramasse pas à la moissonneuse-batteuse. Et puis regarde ce travail de tri nécessaire pour.
Ouais, je suis d'accord. Il y a tellement de travail derrière que peu de personnes le font, parce que c'est vraiment beaucoup de boulot, quoi. On fait 70 heures par semaine, on travaille 7 jours sur 7, une semaine de vacances par an. Le travail d'agriculteur, c'est dur.
C'est ça que vous mettez en valeur aussi, Jean Humbert.
Quand vous avez commencé à présenter l'émission, vous avez dit c'est eux les stars, en fait, et c'est vraiment ça. En fait, c'est incroyable de se dire qu'on a encore ces gens en France qui, comme l'a dit, là, je crois, Bertrand, qui récoltait des légumes, il travaille 70 heures par semaine, il se donne, en fait, pour qu'on ait la qualité et que ce soit pas juste balancer du glyphosate partout dans le champ et tout ça. Et je trouve qu'on a la chance de pouvoir, entre guillemets, médiatique comme moi, à mon niveau, simple, mais on a la chance de pouvoir prendre la parole sur ces sujets, le mettre à la télé, là, sur France 5, ou en parler sur les réseaux sociaux. On a comme un devoir. C'est vraiment un engagement, quoi.
Est-ce qu'il y a quelque chose justement qui s'est modifié, parce que je le disais, Top Chef ou les émissions que vous faisiez avec Norbert qui s'appelait Le Défi, vous étiez dans la performance, vous étiez dans la prouesse, vous étiez dans la technique, les stars c'était vous, mais pas seulement vous, c'est-à-dire qu'on voyait bien que le produit tombait complètement du ciel, il était déjà là sur le plan de travail, finalement on s'y intéressait pas du tout, le produit il ne faisait que mettre en valeur vos techniques à vous, et là vous inversez la vapeur d'une certaine manière.
Tout à fait, c'est vrai que mais je pense que d'abord les gens ont commencé à se passionner par la cuisine grâce à des choses comme Top Chef ou comme Cyril Lignac, tout ça. D'un seul coup, ils ont envie de regarder la télé. Mais les gens sont allés plus loin.
Mais là, c'est la recette et c'est le savoir-faire.
Exactement. Mais là, les gens, ils sont allés plus loin. À chaque fois qu'on voit des enquêtes et tout ça, les gens maintenant, ok, certes, le prix évidemment est important dans ce qu'ils achètent, mais ils veulent savoir ce qu'ils mangent. C'est comme ça. Et cette émission, c'est un peu la suite de ça. C'est-à-dire où moi, il y a plusieurs façons de faire de la télé. On peut être candidat, se battre entre guillemets, ou être dans un défi comme je faisais avec Norbert. Après, on peut être juge. Je me sens pas l'âme d'un juge. Moi, je préfère combattre à la rigueur. Je préférais refaire une émission où il faut combattre plutôt qu'être juge. Je me sens pas là-dedans. Mais par contre, passer le relais de ce qu'on a appris, nous, en tant que chef cuisinier avec cette émission, ça, je kiffe.
Justement, le rôle des chefs dans l'évolution des goûts et justement dans l'évolution des productions. Vous nous emmenez au pied du Mont Canigou. Il y a deux jeunes ingénieurs agronomes, un couple, qui font pousser des centaines d'espèces d'agrumes, des espèces rares, du coup des goûts extrêmement rares. Vous nous dites d'ailleurs que c'est le repère des chefs étoilés.
C'est quand même aussi les chefs qui ont tiré ça un peu d'un seul coup vers le haut, ou alors c'est le producteur qui a d'un seul coup amené plein de variétés, qui a intéressé les chefs, on sait pas trop d'où c'est venu, quoi.
Nous, il y a une douzaine d'années, en fait, il y a Alain Ducasse qui cherchait des bergamotes.
D'accord.
Il trouvait pas de choses qui l'intéressaient, et on a envoyé les premières bergamotes à Alain Ducasse qui est tombé un peu de sa chaise. Je parlais des grands chefs tout à l'heure. Du coup, par exemple, tu vois, Jacques Marcon, le yuzu, lui, il l'aime quand il est vert. Vraiment sur la jeunesse, la puissance, la force du yuzu. Anne-Sophie Pic, elle l'aime quand il est en surmaturité, quand il est très mûr.
C'est intéressant, ça, le rôle des chefs dans la façon dont on fait évoluer la production et avec cela, les goûts.
J'ai toujours pensé que les chefs, ils étaient prescripteurs là-dessus. C'est-à-dire qu'on a une image, on a, je redis, des réseaux sociaux, etc., sur lesquels on peut communiquer. Donc le chef est très important. Après, il ne faut pas que les gens se leurrent. C'est-à-dire que le chef, ça correspond à 0,00, je ne sais pas combien de pourcents des gens qui vont aller manger dans leur restaurant. Mais par contre, il faut que ces agriculteurs donnent envie à d'autres de s'installer et que ça puisse créer une émulation. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir, faut être honnête, se payer un agrume que peut avoir Alain Ducasse dans son restaurant. Et il faut que ça se démocratise de plus en plus.
On peut en parler de la façon dont vous filmez les citrons, parce que ça transpire. C'est totalement totalement érotique. Ça, vous poussez très très loin la sensualité du produit.
Ah, c'est chaud un citron.
Ah, c'est chaud un citron, oui.
Non, on voulait faire des belles images, c'est important, c'est ça. De donner envie. Je dis toujours, on va filmer les carottes comme on filme les lions. Mmh. C'est un peu ça. Je voulais vraiment qu'on aille au cœur. Et oui, c'est très sensuel la cuisine. Moi, je dis toujours que c'est quelque chose de le plus intime avec l'amour.
Mmh. Est-ce que, à votre avis, il y a aussi quelque chose qui vient des réseaux sociaux, de toute une esthétique qui s'est développée sur Instagram? La bouffe, c'est le troisième sujet le plus évoqué sur Instagram, qui est un réseau social entièrement en images, photos ou vidéos. Est-ce que vous pourriez décrire, par exemple, Jean Humbert, à ma maman qui écoute l'émission, qui n'a jamais été sur Instagram, à quoi ça ressemble, toutes ces photos de nourriture sur Instagram? Comment vous les décririez?
J'essaye pas forcément que ce soit esthétique. Je dirais à votre maman, si ce midi, voilà, on est en automne, elle a fait une soupe de potiron, elle peut la prendre en photo, cette soupe, ouais, et la mettre sur le réseau et la partager avec toutes ses amies.
Oui, mais c'est toujours beau sur Instagram. C'est toujours beau. Avouez-le.
C'est peut-être parce que la nourriture est quelque chose de beau. Je sais pas, les produits sont beaux. Après, moi, à titre personnel, évidemment qu'on essaye que ce soit beau, une photo qu'on va partager avec sa, ouais, communauté. Mais j'ai pas d'obligation. C'est-à-dire, il n'y a pas d'organisation à titre personnel. Il y a plein de chefs qui vont être organisés pour faire tout un truc. Je sais pas, je dirais à votre maman de créer un compte et, et comme ça, vous l'invitez discrètement en disant, voilà une nouvelle.
Vous avez 400 000 abonnés sur Instagram. Votre pâtissier qui fait le dessert du jour dans votre resto chez Mamie, qui est le pâtissier du Meurice, qui s'appelle Cédric Grelet, qui a 34 ans. Il a 1,5 million d'abonnés, mmh, sur Instagram. Il est né par les réseaux sociaux en matière de médiatisation et de notoriété, beaucoup plus que par la télévision. Mmh. Et justement, à quoi ça sert? Comment vous vous en servez de ces réseaux, de ces nouveaux médias, de ces nouveaux outils qui passent en image le goût?
On s'en sert pour... En fait, moi, je dis toujours, quand j'étais petit, fallait que j'aille, si je voulais, par exemple, connaître un chef, il fallait que j'aille acheter son livre de cuisine.
Absolument.
Il fallait que j'aille dans son restaurant. C'était compliqué.
Et la photographie, ça comptait beaucoup dans,
exactement,
les livres de cuisine.
Le livre de cuisine, moi, par exemple, honnêtement, à part si je voulais faire la recette, je regardais pas la recette.
Vous regardiez les images.
Mais combien de fois j'ai feuilleté tous les livres, même de Ducasse, de Robuchon, de Guérard, tout ça, quand j'étais petit.
Maintenant, et les fiches cuisine de elle, c'est pareil. Les photos, bien sûr.
Oui, je les feuilletais moi, c'est ma maman, ça.
Bah,
mais voilà, les Instagram, c'est dingue. On peut maintenant apprendre un chef. Vous parlez de Cédric Grelet. Oui. Par exemple, n'importe qui dans le monde peut aller voir, comme si elle les mangeait presque, mais juste les regarder en photo et regarder sur son Instagram les photos. Mais je pense que ça nous a aidé. Ça nous a montré aussi l'envers du décor un peu de cuisinier, parce qu'on ne met pas que des belles photos, on met aussi l'atmosphère qui passe dans une cuisine. Je veux dire, pendant des années, le grand chef de cuisine, c'était la grande toque, ça criait.
Absolument.
Oui, chef, là, un peu le truc, un peu, voilà, hiérarchique.
Ça maintenant, a désacralisé.
Bah oui.
Ouais, ouais.
Parce qu'on n'a pas besoin d'être sacralisé. Moi, je joue au foot le week-end. Tout à l'heure, je pars en Bretagne dans ma cabane et pourtant, je suis cuisinier, j'ai mon restaurant juste à côté. Et voilà,
vous avez été aussi au Pays Basque sur la trace des piments d'Espelette. Vous nous avez fait d'ailleurs terriblement saliver avec ces petites galettes de maïs, le fromage fondu, le petit jambon là avec le piment d'Espelette par-dessus.
Arrêtez, j'ai faim là.
Ouais, bah, nous aussi. Nous aussi. Vous n'êtes pas le premier. Évidemment que vous n'êtes pas le premier à aller à la rencontre des savoir-faire régionaux. C'était Jean-Luc Petit-Renaud, c'était Julie, c'était etc. Mais il y a quelque chose de très intéressant. Gérard Depardieu, par exemple, quand il a tourné cette très belle série pour Arte, il a été en Bretagne, il a été au Pays Basque, comme vous, il a été en Bavière. Et ensuite, ça a été racheté par Netflix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de l'ultra local, comme vous faites vous, se met à être distribué dans 130 pays et devient universel. Et ça aussi, ça raconte quelque chose, non? Parce que vous êtes la génération qui a vu se multiplier les documentaires sur Netflix, qui sont des productions mondiales, planétaires. Sur des produits très très régionaux comme les tacos par exemple.
Je dis souvent le goût ou même l'écologie entre guillemets alimentaire, c'est mondial. C'est-à-dire, on essaie de nous enfermer dans la France ou ça, mais de toute manière, ce qui se passe mal en Chine ou au Pérou, se passe mal aussi pour nous. C'est-à-dire nous, par exemple, actuellement, là, si vous allez sur n'importe quel étal, vous allez trouver des asperges du Pérou,
ouais,
ou des cerises du Chili, etc. Donc, la prise de conscience, elle doit être mondiale. J'y crois pas juste en une prise de conscience française et on est dans notre petit cocon. Je dis toujours, moi, j'ai mon petit potager bio, donc j'ai pas de problème. Je vais manger mes petits légumes, mais j'aimerais que tout le monde puisse comprendre ça, quoi. Le bio, je crois, en France, c'est 6%, en Chine, c'est 0,1%. Donc voilà, il faut une prise de conscience globale, c'est sûr.
Merci Jean Humbert. Il est ouvert le resto le dimanche soir?
Non.
Non, eh ben c'est très bien, vous mettez tout le monde à l'arrêt devant la télévision. France 5, 20h50, voilà. Pour l'automne, c'est l'un des quatre volets de ces quatre saisons. À la technique, Julien Dumont, j'embrasse et je remercie de tout mon cœur toute l'équipe, Anne-Cécile Perrin, Marion Philippe, Redouane Tella. Je souhaite la bienvenue à un petit nouveau-né qui vient tout juste d'arriver. Il s'appelle Félix Delaporte. Dans un instant, Ali Rebéi avec un très joli sujet. Que racontent nos photos de famille?